fois, comment l'amour est présent à l'origine de la famille, en quoi il est son fondement. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons voir comment l'amour est une lumière pour le quotidien de la famille. Et enfin, parce qu'il faut toujours une perspective, puisque dans la vie chrétienne, il y a une perspective, et cette perspective est éternelle, nous verrons comment l'amour constitue la fin de toute chose, en fait, pour la famille, pour chacun d'entre nous. Je vous précise que la deuxième partie sera la plus dense, la plus longue. Au début de ce carême, il nous a été donné d'entendre et de méditer, et ce dès dimanche dernier, le beau récit de la transfiguration. Et nous le savons, dans cet événement lumineux, Jésus a voulu, à travers cet événement, préparer ses disciples à voir au-delà du visible. C'est-à-dire, et nous le savons, nous l'avons entendu peut-être en prédication dimanche, de contempler sa propre gloire, la gloire du Christ, derrière la figure du serviteur souffrant et mourant sur la croix. C'est-à-dire ce mystère que nous allons contempler dans quelques semaines maintenant. Le mystère de la souffrance et de la mort conduit à celui de la résurrection. Ces deux mystères sont inséparables. En fait, ils ne font qu'un mystère. Ce sont les deux moments d'un seul mystère. Et dans ce mystère, la gloire de Dieu se manifeste, et elle se manifeste au plus haut degré. Ce que nous vivons, nous, pendant ce carême, eh bien, c'est le chemin qui nous conduit à passer avec Jésus de la souffrance et la mort à la vie. Chaque année, nous reprenons ce chemin, nous le réactualisons, nous prenons part à ce chemin qui a été celui du Christ. Et cette vie, nous le savons, c'est une vie, la vie éternelle. Tout ce que le Christ donc a accompli une fois pour toutes, dit l'Écriture, ce mystère de salut qu'il a offert aux hommes et aux femmes de tous les temps, est un mystère d'amour. D'amour infini. Je vous cite Saint Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, nous connaissons ce texte, pour ceux qu'on aime. Jésus a vécu, il est mort et il ressuscite par amour pour son peuple, pour ses frères, pour ses enfants. Et c'est encore par amour que Jésus nous a donné le moyen de dépasser toute souffrance et même la mort. Et c'est pour cela il peut justement commander à ses disciples, toujours Jean 15, 12, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » En Dieu, lorsque on contemple la Trinité, cet amour est une personne. C'est l'Esprit Saint qui a été répandu par Jésus sur l'Église, son épouse, au jour de la Pentecôte, au baptême, puis au jour de notre confirmation, nous avons à notre tour reçu ce don de l'amour éternel comme prémisse de la vie éternelle à laquelle, j'ose penser et croire, nous aspirons tous et nous aspirons avec la création, dit saint Paul, chapitre Romains, chapitre 8. L'amour devient ainsi une force nouvelle que chacun peut mettre en œuvre et faire grandir. J'insiste sur ces deux points. Mettre en œuvre, donc ça, l'amour doit porter du fruit dans notre vie, et grandir, doit cesser de croître. Et il croit, l'amour croît en notre vie, justement parce que nous en vivons. Mais, et nous le savons ô combien, l'amour ne se vit jamais seul. Il y a d'abord, au premier plan, et par-dessus toute chose, l'amour de Dieu. Cet amour qui nous précède en réalité et qui nous donne de pouvoir l'aimer à notre tour, en retour, réponse, la réponse la plus profonde, la plus belle à cet amour de Dieu. Il y a encore le juste amour de soi. Ben oui, c'est important ça. Et vous voyez, je le mets avant l'amour du prochain. Et ce juste amour de soi, eh bien, il nous fait dire avec le psalmiste, « Je reconnais devant toi, Seigneur, le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. » Psaume 138, verset 14. Nous sommes alors pleins de joie devant le Créateur pour tout ce que nous sommes. Et tout cela sort de sa main à lui qui est paix. Il y a enfin, c'est l'amour du prochain. Chant ô combien vaste, et dans ce chant, j'aimerais avec vous ce soir glaner quelques éléments dans ce qui constitue au fond la plus fondamentale des cellules, c'est un terme un peu barbare peut-être, dans laquelle chacun de nous est né, a grandi, et où il a pu, plus ou moins, c'est vrai, s'épanouir, devenir l'homme ou la femme qu'il est aujourd'hui. Et je veux évidemment parler ici de la famille. Le pape François, vous le savez, faisant suite aux deux synodes consacrés à la famille, a voulu consacrer cette exhortation à Maurice Laetitia, la joie de l'amour, que vous pourrez trouver pour ceux qui n'ont pas encore sur la petite table au fond, que je vous invite à lire, à méditer, à reprendre. Et il a voulu donner, et je partirai de cela, un titre significatif, la joie de l'amour. L'amour, en effet, et ce sera ma première partie, se trouve au commencement de la famille et il se trouve en son cœur. On dit bien, quand on essaie de situer, on essaie de trouver le siège de l'amour, alors c'est une image. Hein. Mais quand on demande, si on demande à un enfant, avec quoi on aime? Avec le cœur. Nous savons que nous, c'est la volonté, mais c'est le cœur. Le cœur est au cœur, si je puis dire, de cette question-là. Donc, l'amour est au cœur de la famille. Et la famille, justement, jour après jour, dans les joies, dans les peines, dans les épreuves, dans les temps de paix, cherche à construire et à consolider cet amour qui sera la cause pour chacun de ses membres de la joie éternelle dans le royaume où Dieu nous appelle. Reprenez, je n'ai pas mis la citation sur ma petite feuille, mais vous retrouverez, aujourd'hui, il y a la foi, l'espérance et la charité. La foi passera, un jour nous verrons Dieu, plus besoin de croire en lui. L'espérance passera, aujourd'hui on espère en Dieu. On espère Dieu et son royaume, l'accomplissement éternel de ses promesses. Dans le royaume, plus besoin d'espérer, nous jouirons de ce royaume. Demeure l'amour. Première partie donc, l'amour comme origine de la famille. Je vous cite un premier texte du pape François, donc vous trouvez ce texte au numéro 9, je vous donnerai les numéros, pas les pages, parce que ça dépend des plusieurs éditions, donc toujours le numéro d'exhortation. Donc à Maurice Laetitia, numéro 9, je cite, franchissons donc, c'est une invitation du pape François, franchissons donc le seuil de cette maison sereine, avec sa famille assise autour de la table de la fête. Au centre, nous trouvons en couple le père et la mère, avec toute leur histoire d'amour. En eux se réalise ce dessein fondamental que le Christ même évoque avec force, et là il cite Matthieu 19,4, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes ?» À l'origine de la famille, je vais parler de plusieurs origines en quelque sorte, mais qui se concentre en un seul point, en un seul centre, qui est Dieu lui-même, nous le savons. À l'origine de la famille, donc, il y a le couple qui, dès les premiers instants, a commencé à écrire une nouvelle histoire d'amour, mais qui s'insère dans la longue histoire d'amour qui existe et qui se tisse avec joie et peine, là encore, entre Dieu et son peuple. Toute l'histoire de notre humanité est une histoire d'amour, une alliance que parfois nous rompons, mais que Dieu sans cesse est venu renouer avec nous jusqu'en Jésus, qui tisse avec nous, qui marque de son sang cette alliance éternelle. L'homme et la femme, donc, qui découvrent cet amour qui se tisse entre eux, ce qui est quelque chose de l'ordre de la découverte quand même, et qui, peu à peu, peut-être découvre aussi ce désir d'un engagement pour construire un chemin commun, se rendent rapidement compte, c'est l'expérience que nous pouvons faire peut-être les uns les autres, ceux qui vivent justement en couple, et puis ceux qui ont l'expérience en accompagnement des couples, ils vont se rendre compte de ce paradoxe. L'amour, d'un côté, est une force incroyable qui donne des ailes. Et bon, quand on voit les deux jeunes amoureux, on les voit capables de déplacer les montagnes. Et il permet, eh bien, à chacun de se projeter et ensemble dans un avenir qui s'écrira au quotidien. Tout n'est pas écrit d'avance. Mais en même temps, d'un autre côté, l'homme et la femme expérimentent, et assez vite, la fragilité de cet amour. Et même qu'il peut parfois faire souffrir et être cruel. On y reviendra. Le pape François, dans ce texte-là, dans ce numéro 9, on pourrait citer des kilomètres de référence, hein, le pape François donc fait référence à la création de l'homme et de la femme qui sont créés par Dieu à son image et selon sa ressemblance. Il les a faits par amour, la cause, et pour l'amour. Quand Dieu crée l'homme et la femme, l'humanité, il veut qu'elle lui soit unie par cette participation à cette communion qui existe entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui est une communion d'amour. L'homme est appelé à entrer dans cette. Dieu a voulu que leur amour, et c'est la continuité, c'est pour ça qu'il les a fait comme ça, si je puis dire, il a voulu que leur amour exprime la communion, justement, qui existe entre les personnes de la Trinité. Et par cette citation, le pape nous rappelle que l'amour ne se renferme jamais sur lui-même. Quand si on parlait d'amour égoïste, c'est une contradiction de termes. L'amour, par définition, ne peut pas être égoïste. Il peut l'être dans la perspective, dans ce pourquoi on aime. On peut aimer parce que ça fait du bien, parce qu'on cherche une satisfaction, un réconfort. Toutes choses qu'on peut entendre, hein, qui peuvent être compréhensibles. Mais ce n'est pas la fine pointe, si vous voulez, de l'amour tel que Dieu le vit en son sein. L'amour est donc généreux et il se diffuse au-delà de ces deux qui s'aiment. Le couple n'est pas appelé à vivre une solitude à deux, si vous voulez, une espèce d'individualisme à deux. Et je cite le pape au numéro 11, « Le couple qui aime et procrée est la véritable sculpture, mais des guillemets, vivante, non pas celle de pierre ou d'or que le décalogue interdit, donc la vraie sculpture vivante, capable de manifester le Dieu créateur et sauveur. C'est pourquoi l'amour fécond arrive à être le symbole des réalités intimes de Dieu. Le symbole des réalités intimes de Dieu. Un couple dit quelque chose qui est au cœur de Dieu. La procréation est donc, dans ce que dit le pape, le signe privilégié, unique, même, puisqu'il en existe bien d'autres, du rayonnement de l'amour au-delà du couple dans une famille. Et c'est ainsi, on le réalise, hein, que l'image de Dieu se répand à toutes les générations et que peut se réaliser le dessein d'amour du Père, et là je cite encore numéro 11, le Dieu Trinité est communion d'amour et la famille est son reflet vivant. Vous voyez, il fait référence au veau d'or, c'est une image inerte, morte, dans laquelle on se met à danser, on adore. On a beaucoup d'images comme ça hein, dans notre vie. Dans la mienne, non? Ben non. La famille est l'image vivante de cet amour, de cette communion d'amour. Le pape rappelle par la suite que cet amour, qui s'accomplit parfaitement, ultimement et définitivement dans le Christ, peut alors rayonner dans la famille, qui ainsi redécouvre son identité, ce qu'elle est, et sa vocation, ce pourquoi elle est famille. Je cite, numéro 59. Le mystère de la famille chrétienne ne peut pas non plus se comprendre pleinement, si ce n'est à la lumière de l'amour infini du Père, manifesté dans le Christ, qui s'est donné jusqu'au bout. Cet amour se donne jusqu'au bout et Christ qui est vivant parmi nous. C'est pourquoi je voudrais contempler le Christ vivant, présent dans tant d'histoires d'amour, et invoquer le feu de l'Esprit Saint sur toutes les familles du monde. Si cet amour nous pouvons en vivre, c'est parce que le Christ est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, et qu'il ne cesse de répandre en nous son Il l'a donné à son Église à la Pentecôte, mais il ne cesse de le répandre sur son épouse que nous sommes. En tout cas, comme membre. Ainsi, eh bien, cet amour devient une loi nouvelle pour chacun d'entre nous et chacune de nos familles. Je vous cite encore au numéro 27. Le Christ a introduit par-dessus tout comme signe distinctif de ses disciples, la loi de l'amour et du don de soi aux autres. En chaque famille, dès son commencement, donc, il est question d'amour. Je sais que je peux décrire ici quelque chose de l'ordre d'une perfection et que toute famille ne vit pas cet amour, n'y parvient pas, parce qu'elle est blessée, parce qu'il peut y avoir des difficultés qui font qu'on n'arrive pas à aimer l'autre en vérité. Mais la famille peut trouver son fondement justement en revenant à la source de cet amour, de Dieu, des époux et de tous ses membres. Et je commence toujours par Dieu. Où aller chercher de l'eau si la fontaine est tarie? Je pense à Manon des Sources. Vous avez tous vu ou lu Manon des Sources. Là, il y a plutôt à la fontaine, mais il faut aller à la source. Et la source, c'est Dieu. L'amour est une réalité, par la suite, qui est appelée à se développer, à se renforcer. On imagine parfois que l'amour, c'est une espèce de grand réservoir dans lequel on vient puiser. On puise, ça part, on vient boire de cette eau, c'est magnifique. Au début, elle est fraîche, puis après, le soleil, tout ça, l'eau, elle commence à être un peu chargée de plein de choses, et puis finalement, ça finit par s'épuiser. Alors, si on regarde l'image du réservoir, il ne faut pas oublier qu'on peut l'alimenter, le réservoir, avec de l'eau vive. Et moi, j'aime bien l'image de la construction. D'abord, on pose une pierre, hein, le premier jour. Le deuxième jour, chacun amène une pierre, et on bâtit. Et on forme l'édifice. C'est pour ça que j'ai bien mis cette citation du pape, franchissant donc le seuil de cette maison sereine, autour de la table de fête. Cet amour donc s'entretient, s'exerce, et il s'exerce au cœur même du quotidien de la famille, qui connaît donc toutes sortes d'épreuves, de combats et de souffrances. Et je crois très fort que plus on sera enraciné dans cet amour, c'est pas magique, il n'y aura pas. Ça ne va pas supprimer d'un coup de revers de main toutes les épreuves, toutes les difficultés, mais ça permettra de les affronter ensemble et fort d'une force nouvelle qui est celle de l'Esprit Saint. Hein? Nos forces, elles sont blessées, je vais y venir tout de suite. Deuxième partie, l'amour, donc une lumière pour le quotidien. Le pape, dans le chapitre 2 d'Amoris Laetitia, mais par ailleurs aussi, il établit une liste assez exhaustive, il faut le dire, de toutes ces épreuves rencontrées par les familles, je précise, du monde entier. N'oubliez pas que c'est un regard porté sur la famille en général. Il ne faut pas qu'on soit trop centré sur notre seule réalité occidentale et plus particulièrement française. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, de difficultés. Mais il existe d'autres difficultés aussi qui sont bien différentes, peut-être qu'on a oublié, qu'on a pu connaître, et qui existent. Il ne s'agit pas pour lui ici de conclure que la vie de la famille est un drame ou même une tragédie. Mais il veut décrire dans ce chapitre la réalité telle que les familles la vivent. Et encore une fois, dans tous les horizons. Et de cet état des lieux de la famille d'aujourd'hui, il ne s'agit pas de remonter tout le millénaire pour voir comment la famille évolue, mais comment la famille vit aujourd'hui, le pape François veut nous amener à retrouver les moyens pour traverser ces épreuves et conduire les familles à une connaissance et une conscience plus grande, j'y reviens, de son identité et de sa vocation. Si je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je dois faire, ni comment le faire, évidemment. Et le moyen qu'il emploie est de remettre au centre du quotidien des familles l'amour. Quand vous regardez le plan de Maurice et Titia, c'est très intéressant, hein, il y a 9 chapitres, vous savez, 2 chapitres centraux, 4e chapitre, l'amour dans le mariage, 5e chapitre, l'amour qui devient fécond, comme par hasard, l'amour au cœur. Ce qu'avait fait quelques dizaines d'années auparavant le Concile Vatican II, je vous invite à relire Lumen Gentium 47-58, quelque chose comme ça. Mais, dit le pape, je cite numéro 89, mais le mot amour, l'un des plus utilisés. J'aime la grâce, j'aime le tiramisu, j'aime mon chat, j'aime ma femme, j'aime mes amis, j'aime Dieu, j'aime ceci, j'aime cela, j'adore même, semble, dit-il, souvent défiguré. Il s'agit donc pour lui, eh bien, dans les chapitres 4 et 5, justement, de rétablir la véritable définition de l'amour dont il est question. Et il le fait à partir de l'hymne à la charité de saint Paul, qui est donné in extenso au début du chapitre 4. C'est le seul moyen pour qu'il devienne une force vivante et vivifiante pour la famille. Numéro 123. Après l'amour qui nous unit à Dieu, l'amour conjugal est la plus grande des amitiés. C'est une union qui a toutes les caractéristiques d'une bonne amitié. La recherche du bien de l'autre, l'intimité, la tendresse, la stabilité et une ressemblance entre les amis qui se construit avec la vie partagée. Mais le mariage ajoute à tout cela une exclusivité indissoluble qui s'exprime dans le projet stable de partager et de construire ensemble toute l'existence. Dès la Genèse, l'Écriture nous a enseigné, nous enseigne que cet amour a été blessé par suite du péché originel. L'homme et la femme ont du mal à s'aimer. Il y a la passion, puis la passion, elle passe un peu. Et il faut durer. C'est un marathon, une course d'endurance. Dieu, lui, demeure fidèle à son dessein éternel. Et il ne pouvait donc pas laisser l'humanité dans cet état. Je cite, numéro 63, Jésus, qui a réconcilié toutes choses en lui, a ramené le mariage et la famille à leur forme originelle. Il y a peut-être plus, je poursuis la lecture. La famille et le mariage ont été rachetés par le Christ, Éphésiens 5. Restaurer à l'image de la très sainte Trinité, mystère d'où jaillit tout amour véritable. Racheté par le Christ. Tout est là. Nous le comprenons donc bien, c'est en Jésus, par lui et avec lui, que l'homme, la femme unie, et donc la famille, dans la suite, peuvent retrouver le sens véritable de l'amour. Et voyons comment, ensemble, le pape François décrit cet amour qui devient la force nouvelle de la famille. Numéro 89. La grâce du sacrement... Pardon, je fais un petit aparté. Si je m'arrête un petit peu sur la grâce du sacrement de mariage, c'est parce que, ce que j'aurais dû préciser dès le départ, au cœur de la famille, à la source de la famille, il y a le mariage. L'homme et la femme qui s'unissent dans ce projet commun. Je pense que c'était clair, mais je voulais repréciser. Donc leur amour va prendre une extension nouvelle avec les enfants. Quand ceux-ci peuvent venir. Il y a des cas où ce n'est pas possible. Ça n'empêchera pas cet homme, cette femme, d'aimer hein, au-delà même de ce couple. Mais si vous voulez qu'on y revienne, on y reviendra dans les questions. Hein. Je reprends. Donc, numéro 89. La grâce du sacrement de mariage est destinée avant tout à perfectionner l'amour des conjoints. Perfectionner. Quand on a 20 ans, quand on tombe amoureux, bien sûr qu'on a l'impression, encore une fois, c'est mieux que Red Bull, vous savez, la pub là, ça donne des ailes. C'est mieux que ça, bien sûr, on a l'impression que le monde est à nos pieds. Mais cet amour, il faudra le perfectionner, parce qu'il est encore très immature, très neuf, très jeune, et il faudra qu'il prenne de la maturité. Voilà pourquoi une grâce spéciale vous est donnée, entre autres, dans le sacrement de mariage. Et c'est là que je finis la citation, à partir de cette charité conjugale, c'est toute la famille qui se trouve en réalité renforcée dans sa capacité d'aimer. Et cet amour se vit à partir de la relation que chacun, ce sont des personnes, et que la famille elle-même entretienne avec sa source qui se trouve en Dieu. C'est en vivant de Jésus que chaque membre de la famille grandit dans l'amour. C'est là que se trouve le secret. Vous savez, c'est tous les secrets dans la vie chrétienne, ils sont faits pour être dits. On n'est pas ésotérique. On dit les secrets, les mystères. J'aime bien employer le paradoxe. C'est là que se trouve le secret que Jésus nous a révélé tout au long de son ministère et jusqu'à son illustration la plus haute et la plus belle qu'est la croix. Vous en avez dans l'église, au-dessus, au cou pour certains. Et là, je vous cite numéro 63 du Christ. Et là, cette petite mention est très importante. Du Christ à travers l'église. Oui, à travers l'église. Le mariage et la famille reçoivent la grâce nécessaire pour témoigner de l'amour de Dieu et vivre la vie de communion. J'aime énormément cette citation. On a presque tout résumé en quelques mots. Du Christ à travers le ministère de l'Église. Le mariage et la famille reçoivent la grâce, c'est de ça dont nous vivons, la grâce nécessaire pour témoigner de l'amour de Dieu. Il faut en témoigner. Notre confirmation, c'est notre mission à tous, en famille et puis ailleurs, et vivre la vie de communion. Nous sommes faits pour vivre en communion les uns avec les autres, au-delà de toutes les discussions, les disputes, les différences, etc., qui peuvent exister entre nous, qui sont réelles, mais ultimement, nous sommes appelés à cette communion éternelle avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. À propos de la charité conjugale, dont j'ai juste mentionné le terme il y a un instant, le pape ajoute, au numéro 127, donc beaucoup plus loin, L'amour d'amitié s'appelle charité quand on saisit et apprécie, j'ajouterais presque quand on goûte, ça c'est moi, la grande valeur de l'autre. Cette valeur de l'autre, elle lui est donnée par le Créateur, par le fait même que la personne elle-même vient de Dieu. C'est pour ça qu'elle est aimable. C'est pour ça que je peux aimer l'autre. Jésus me dit, aimez-vous les amis, aime ton ennemi. Quand Bob, pardon, j'ai des prénoms un peu particuliers dans les citations, mais quand Bob il vient qui me donne un coup, qui me fait un sale coup, j'ai du mal à l'aimer. Mais la raison pour laquelle Jésus peut me commander cela, c'est parce qu'il est une personne qui vient de Dieu. Et c'est là toute sa dignité. C'est un chemin toujours long, je pense, mais possible. Cela doit nous pousser, lorsqu'on en a conscience et connaissance, à ne jamais donc considérer l'autre, en amour en particulier, ou à l'utiliser comme un moyen. D'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais toujours comme un bien en soi, un but à atteindre. Au fond, c'est un but à atteindre, en sachant malgré tout que nous ne percevrons jamais, ou percerons jamais totalement le mystère de sa personne. Et c'est ainsi que l'on rejoint la pleine dimension de l'amour, c'est-à-dire dans cette dimension oblative. C'est bien, c'est bon, c'est bon. L'amour est comporte cette dimension oblative, c'est-à-dire que nous sommes appelés au don de nous-mêmes, qui s'oppose, pardon, cet amour, à un amour captatif, si on peut appeler ça un amour, qui fait que, comme le rappelle le pape dans le même numéro 77, la joie finit par s'éteindre. C'est en voyant les couples chrétiens s'aimer de cet amour théologal, je passe sur développement sur la vertu de charité, je n'aurai pas le temps, qui est donné par Dieu seul, par le ministère de son Église, que les autres couples, peut-être, peuvent découvrir sa source. Peut-être qu'ils ne le connaissent pas encore. C'est en voyant leurs parents s'aimer de cette charité conjugale que les enfants peuvent apprendre à aimer en vérité à travers les épreuves. Les difficultés aussi restent l'amour. C'est en voyant ce foyer de charité, aucune citation, enfin référence aux communautés, hein. C'est en voyant ce foyer où demeure la charité, où elle brûle dans nos familles, que le monde peut trouver dans ce feu la chaleur et la lumière dont il manque tant. Il ne s'agit pas ici de jouer la comédie, de vouloir sembler être parfait. Les épreuves sont bien présentes, et nous cherchons à les vivre ensemble, unis par cet amour. Nos défauts sont bien souvent criants, mais nous tâchons de les rectifier avec la grâce de Dieu et l'aide du conjoint, des enfants, des autres. Nos fautes témoignent souvent contre nous, dit l'Écriture, mais la charité nous pousse à nous convertir et à en demander le pardon. Pardon, Seigneur, ça, miséricorde. Pas de comédie, donc, mais un témoignage sincère, honnête et vrai de ce que l'on cherche à bâtir la famille sur cet amour et donc sur le Christ. Voilà le premier témoignage de la vie, de cette charité dans cette famille, dans la famille. Je continue, numéro 130. D'autre part, dit le pape, la joie se renouvelle dans la souffrance. Ça fait un peu... Je continue. Comme le disait saint Augustin, il cite saint Augustin, plus le danger a été grand dans le combat, plus intense est la joie dans le triomphe. Il prend l'image militaire. Il continue le pape. Après avoir souffert et lutté, unis, les conjoints, et là j'ajoute, enfin je communauté, on pourrait ajouter aussi la famille, les conjoints peuvent expérimenter que cela en valait la peine. Je précise, le combat, ensemble. Hein, parce qu'ils sont parvenus à quelque chose de bon, qu'ils ont appris quelque chose ensemble, ou parce qu'ils peuvent mieux valoriser ce qu'ils ont. Fin de citation. Il n'y a pas ici la recherche ou même la conscience d'une joie à souffrir. On ne se réjouit pas de souffrir, on ne cherche pas à souffrir, on ne justifie même pas la souffrance. Il s'agit plutôt de choisir d'affronter fort de l'union qui découle de cet amour dont nous parlons depuis tout à l'heure, toutes les vicissitudes de la vie, toutes les épreuves, tous les drames qui nous touchent. Et c'est très différent. Quand on dit, ouais, les chrétiens, ils sont un peu maso, ils aiment la souffrance, ils aiment se faire mal. Mais non, moi, je n'aime pas avoir mal. Mais je découvre à travers ce mystère de la souffrance qui est lié à ma vie, que je le veuille ou non, d'une manière ou d'une autre. Je découvre à travers elle que je peux vivre ce mystère-là avec Dieu, bien sûr, avec mes frères. Alors, mes frères parce que je suis religieux, mes frères au sens large, ou mon conjoint, mes enfants, pour la plupart d'entre eux. Et c'est là le plus important. Hein, ça ne porte pas toute la réponse au mystère du mal, bien sûr. Hein, ça reste un mystère obscur, absurde en quelque sorte. Mais le Christ vient de donner un sens nouveau dans lequel seuls finalement peuvent entrer les personnes qui le vivent. Hein, quand je ne suis pas malade, je ne peux pas le dire. Hein. Le combat mené ensemble donc renforce l'union. Vous voyez, c'est ça la citation de Saint-Augustin. C'est sûr que si je suis tout seul, ça va être très dur. Si je vis ce combat-là de la souffrance avec l'autre, que j'affronte ces épreuves avec l'autre, l'union, en fait, on s'en grandit. Et souvent, on a l'impression que, au contraire, il faut s'éloigner du problème. Et puisque l'union se renforce, l'amour grandit, parce que c'est le mal que nous combattons pour atteindre ensemble un bien. C'est le combat du bien et du mal. C'est toute l'écriture, la foi du bien et du mal qui s'affronte. Quel moyen le pape propose-t-il pour mener ce combat? Je vais un petit peu accélérer, je pense que je vais être terminé à l'heure. Numéro 38. Beaucoup apprécient la force de la grâce qu'ils expérimentent dans la réconciliation, avec un R majuscule, c'est le sacrement, et dans l'Eucharistie, qui leur permet de relever les défis du mariage et de la famille. Deux moyens, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est le pape François, mais je peux le dire aussi avec lui, hein. J'ai le droit, la confession et l'Eucharistie. Le pardon des péchés et la communion à l'auteur de la grâce, Jésus-Christ, uni au Père et à l'Esprit Saint, pour que le foyer de l'amour ne cesse pas de brûler au cœur de la famille, il faut que ses membres soient en relation permanente avec le Christ. Et tout particulièrement, je le disais, en entrant en communion semaine après semaine avec lui présent dans l'Eucharistie. En vivant de cette communion, chacun peut alors faire grandir la communion des personnes qu'est la famille. Je ne peux pas apprendre, je ne peux pas aimer si je ne me laisse pas aimer. Une communion, c'est réciproque. Quand je communie à Jésus-Christ, bien sûr que j'aime Jésus, mais c'est lui qui m'aime avant tout. Par ailleurs, chacun est appelé à se réconcilier avec le Père du Ciel pour apprendre à vivre le pardon en famille. Le pape insiste à temps et à contre-temps sur ça. Je cite numéro 27. « La miséricorde et le pardon sont aussi le fruit de l'amour. » C'est donc un va-et-vient entre l'une et l'autre réalité. La miséricorde et le pardon ont besoin de l'amour pour pouvoir s'exercer. Et l'amour a besoin les aspects de la vie matrimoniale et familiale, et il aide les membres de la famille à aller de l'avant, à toutes les étapes. Je précise, ça c'est un petit dada que j'aime beaucoup, hein, petite lubie. Un chrétien, c'est celui qui va de l'avant. Il va de l'avant, le chrétien, on va de l'avant. On tombe, on se trompe, on va de l'avant. Toujours. Avec le Christ, haut les cœurs. C'est pourquoi, je reprends la citation, les gestes qui expriment cet amour doivent être cultivés constamment. Oui, parce qu'il y a ce qui est sacramentel, bien sûr. Il y a tous ces gestes qui expriment l'amour. Combien on manque d'imagination, souvent, pour manifester l'amour qu'on a pour l'autre. Peut-être parce qu'on est maladroit, parce qu'on ne sait pas faire, qu'on n'a pas eu d'exemple ce jour. Mais faisons marcher notre imaginaire. Le pape ajoute, donc cultiver constamment, sans mesquinerie, bien sûr, accompagné par des paroles d'affection. Est-ce que je dis à l'autre que je l'aime? Est-ce que je lui dis? Je pourrais vous raconter des anecdotes, mais je n'ai pas le temps. En famille, il est nécessaire d'utiliser trois mots. Je cite ce passage, parce que vous le connaissez, le pape l'utilise toujours, tout le temps. Je veux le répéter, trois mots, permission, merci, excuse. Trois mots clés. C'est en vivant ces trois dimensions de l'amour que la famille alors trouve cette force nouvelle qui lui permet effectivement d'aller de l'avant. Dernière chose, et je passe à la troisième partie très rapide, ce qui sera une conclusion. Numéro 136, le dialogue. Le dialogue est une manière privilégiée et indispensable de vivre, d'exprimer, et de faire mûrir l'amour dans la vie matrimoniale et familiale. Est-ce qu'on dialogue? Est-ce qu'on se dit des choses? On passe. Troisième partie, et ce sera comme conclusion, l'amour fin de toute chose. Je commence par une citation, toujours évidemment, numéro 137. Donc on est à la fin. 317, pardon, excusez-moi. Si la famille parvient à se concentrer dans le Christ, il unifie et illumine toute la vie familiale. Les douleurs et les angoisses sont vécues en communion avec la croix du Seigneur. Et l'embrasser, cette croix, permet d'affronter les pires moments. Dans les jours difficiles pour la famille, il y a une union avec Jésus abandonné qui peut aider à éviter une rupture. Jésus a connu ces difficultés que je connais, que je rencontre en famille ou dans mon couple. Les familles atteignent peu à peu, le progrès est parfois très peu sensible, c'est moi qui ajoute ça, hein, avec la grâce de l'Esprit Saint, leur sainteté. À travers la vie conjugale et familiale, en participant aussi au mystère de la croix, du Christ, qui transforme les difficultés et les souffrances, en offrandes d'amour. La croix de Jésus, nous le savons tous, est la voie d'accès à sa gloire. Pour entrer dans la gloire, pour passer, ouvrir cette porte qui avait été fermée à la Genèse, eh bien Jésus est passé par la croix. C'est la porte étroite. L'amour aussi passe par la croix, nous le savons. Cette croix, on peut choisir de la vivre seule. Et je dis ça sans jugement, parce qu'on pense peut-être qu'en s'isolant, ce sera plus facile d'affronter. Peut-être aussi parce qu'on pense que c'est l'autre ma croix. En tout cas, nous pouvons aussi décider de porter cette croix en famille. Et ainsi, cette croix va aussi porter ma famille. Ou plutôt, celui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité, Jésus-Christ, porte encore en sa chair ressuscité les marques et stigmates de la passion portera ma famille. Parce qu'en elle, par elle, sur elle, il a restauré toutes choses. Et donc, ma famille aussi, mon couple, ma personne. Cette croix, elle scelle en quelque sorte la foi de la famille autour du mystère pascal qui s'accomplit et se réalise ultimement dans la résurrection du Christ. Numéro 318. Presque dernier. La prière en famille, encore un moyen, est un moyen privilégié pour exprimer et renforcer cette foi pascale dont je viens de parler. On peut réserver quelques minutes chaque jour afin d'être unis devant le Seigneur vivant, de lui dire des préoccupations, prier pour les besoins de la famille, prier pour quelqu'un qui traverse un moment difficile, ça peut être mon conjoint d'ailleurs, afin de demander de l'aide pour aimer. J'aime bien cette prière. Seigneur, je n'aime pas suffisamment, je n'arrive pas à l'aimer tel ou tel. Donne-moi un peu de cet amour que tu as pour lui ou pour elle, pour que moi aussi j'apprenne à l'aimer. Nous pouvons rendre grâce pour la vie et pour les choses bonnes, pour demander à la Vierge de protéger par son manteau de mère, par des mots simples. Ce moment de prière peut faire beaucoup de bien à la famille. Beaucoup de bien à la famille. Ça n'exonère pas chacun d'entre nous de prier aussi dans un cœur à cœur avec le Seigneur, mais la prière en famille, et j'ajouterai la prière conjugale, sont vraiment essentielles. Parce que, là encore, c'est ensemble, cette fois-ci, que nous sommes devant le Seigneur. Plus tout seul, ensemble. Donc c'est ensemble que le Seigneur nous fait face. Je termine par cette dernière citation, numéro 61, je reviens un peu plus haut. C'est dans la famille humaine, réunie par le Christ, qu'est restituée l'image et la ressemblance de la Sainte Trinité. Mystère d'où jaillit tout amour véritable. Par l'Église, déjà cité là, le mariage et la famille reçoivent du Christ la grâce de l'Esprit Saint pour témoigner de l'Évangile de l'amour de Dieu. Allons puiser à cette source-là, sans cesse, en n'imaginant jamais que nous soyons suffisamment pleins de cet amour pour nous arrêter d'aller puiser à cette source. Et ainsi nous pourrons, avec nos propres forces, plus humblement, sans imaginer être davantage que ce que nous sommes en vérité, et bien nous pourrons témoigner de cet amour. Et je le crois, c'est mon espérance aussi, je vous la partage ce soir, je crois que ce témoignage, vraiment le monde en a besoin. Le monde est pris par tant de tourments, est à la recherche d'un sens. Et bien je crois que ce sens, on peut en témoigner en famille, en communauté, et puis surtout, en Église. Merci.